Actes chapitre 17, versets 15 à 34. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. » Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Nous sommes à Athènes. Athènes, c'est le centre culturel de la Grèce. À son apogée, Athènes abrita les plus grands philosophes de l'histoire, parmi lesquels Socrate, Platon et Aristote, sans doute le plus influent de tous les philosophes grecs. Deux autres philosophes importants y enseignèrent, il y avait Épicure, qui fonda l'épicurisme, et puis Zénon, à l'origine du stoïcisme. Ces deux courants philosophiques comptaient parmi les plus importants de l'époque. Athènes était connue et est toujours connue pour son art, pour sa culture, pour sa science, pour sa connaissance, pour ses intellectuels. Nous n'avons pas d'épître de Paul aux Athéniens, mais nous en avons deux aux Corinthiens, et Corinthe et Athènes sont sensiblement assez proches. Et aux Corinthiens, il dit au chapitre 1, au verset 21, « Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Je trouve que ce verset de 1 Corinthiens 1:21 illustre bien ce passage de Actes chapitre 17. Tout un tas de philosophes, tout un tas d'intellectuels qui n'ont encore rien compris aux choses de Dieu. Et Dieu va confondre leur sagesse, leur intelligence, par la prédication de l'Évangile, par la bouche de l'apôtre Paul. Lorsqu'un architecte visite une ville, il regarde les bâtiments. Lorsque les policiers visitent une ville, eux, ils considèrent la criminalité dans la ville, etc. Quand un médecin visite une ville, il considère l'état de santé de la population, d'ordre général. Lorsque un restaurateur visite une ville, il regarde le nombre de personnes sur les terrasses, les cartes des restaurants. Lorsque des agents municipaux visitent une ville, ils regardent la propreté de la ville, des rues. Lorsque l'apôtre Paul visite une ville, lui, l'homme de l'Évangile, il considère l'état spirituel des âmes. Et à Athènes, il y a des temples à tous les coins de rue. Cette ville est remplie d'idoles. On a dit qu'il était plus facile de trouver une idole à Athènes qu'un homme. Paul connaît la gravité de l'idolâtrie. Il ne la considère pas comme quelque chose de pittoresque ou d'anodin, mais comme une œuvre destructrice, conduisant ceux qui s'y livrent à la perdition éternelle. Et cette société grecque, la plus versée, qui fut dans la science, dans la connaissance, adorait des idoles de bois et de pierre. Aujourd'hui, nous rions d'une telle idolâtrie. Des temples partout, des sculptures, des idoles devant lesquelles on se prosterne, que l'on embrasse, que l'on porte, auxquelles on sacrifie, que l'on nourrit, que l'on transporte. Mais en réalité, nous ne sommes pas plus avancés. Nous adorons et sacrifions à toutes sortes d'idoles modernes. L'argent fait qu'on sacrifie famille. Le sexe, le pouvoir, même la famille peut devenir une idolâtrie, de sorte que on soit prêt à tout sacrifier pour cela. Et que si la famille ne va pas, alors tout s'effondre dans notre vie. Le travail peut être une idolâtrie parce qu'on a soif de reconnaissance. Le sport, le matériel, les vêtements que l'on porte peuvent être une idolâtrie. Nous croyons qu'ils sont la clé de notre bonheur. Nous sommes tentés de les élever au-dessus de tout. Appeler ça de l'idolâtrie, ça nous choque peut-être. Mais en prenant le contrôle de nos vies, ils prennent la place de Dieu. Ces choses prennent la place de Dieu. Nous sommes parfois prêts à tout pour eux, et pourtant eux sont incapables de nous apporter le bonheur. Nous ne sommes jamais satisfaits avec les idoles. Qui est satisfait avec le sexe? Il en faut toujours davantage. Qui est satisfait avec l'argent? Il en faut toujours davantage. Le lendemain, il faut sacrifier à nouveau. Nos idoles sont totalement incapables de nous sauver. Elles nous mentent quand elles disent que nous serons heureux une fois que nous aurons une belle famille, un bon travail, une bonne santé, un bon revenu, un bon vêtement ou du sexe à gogo. C'est faux. Toutes ces idoles nous décevront. Les Athéniens, dans leur désir, leur poursuite, leur recherche de ce bonheur, ont suivi tout un tas d'idoles. Et n'étant toujours pas sauvés, comprenez, n'étant toujours pas heureux, n'étant toujours pas en paix pour l'éternité, ils ont même édifié un autel à un dieu inconnu. Comme ça, ils sont sûrs d'en oublier aucun. Et Paul visite cette ville et il brûle au-dedans de lui-même. Il est irrité, il est scandalisé par les mensonges que prêchent ces idoles. Il est censé attendre Silas et Timothée, mais il ne pouvait attendre sans parler. Alors aussitôt, il cherche à communiquer l'Évangile et il rentre comme à son habitude dans les synagogues et il parle à tous ceux qui ont une connaissance de Dieu. Et il cherche à éveiller leur intelligence sur la personne de Jésus-Christ. Et puis il sort et il va sur les places publiques et il prêche Jésus-Christ et la résurrection d'entre les morts. Et là, il se fait remarquer par quelques philosophes épicuriens et stoïciens. La philosophie épicurienne prônait l'absence de souffrance comme la finalité ultime de l'homme. Nos problèmes, tout ira bien. Et ça, c'est pas la vraie vie. Ils étaient matérialistes, les épicuriens ne niaient pas pour autant l'existence des divinités, mais ils croyaient qu'elles restaient en dehors des affaires des hommes. Selon leur enseignement, le corps et l'âme d'une personne se désintégraient au moment de la mort. Le stoïcisme, lui, enseignait la maîtrise de soi et visait comme but ultime dans la vie un état d'indifférence à la fois au plaisir et à la douleur. Le plaisir est une engendre tellement de souffrance parce que, ben justement, il faut courir pour en avoir et puis quand on n'en a pas, on est frustré. Puis la douleur, bien entendu, c'est alors, il fallait être zen. Il fallait se détacher de toute chose. Les épicuriens disent, à la mort, tout est fini. Et les stoïciens disent, on ne doit rien craindre, même pas la mort. Les épicuriens disent, tout arrive par hasard. Les dieux ne s'occupent pas de nous. Les stoïciens disent, tout est Dieu. Les arbres, les pierres, vous êtes Dieu, je suis Dieu, tout est Dieu. Donc il n'y a pas de créateur, puisque on est Dieu. C'est le panthéisme. Et donc à Athènes, ça battait son plein. Mais lorsqu'ils entendent Paul annoncer Jésus-Christ et la résurrection, il le traite de discoureur, littéralement de pie bavarde. Alors j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais Paul, il devait parler, il devait y aller de tout son cœur et chercher à convaincre chaque homme, chaque femme de cette ville de quitter les idoles et de s'attacher à Jésus-Christ. Et ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette pie-là Et ils l'ont convoqué et lui ont demandé de venir présenter sa doctrine, son enseignement devant l'aréopage. En fait, ils avaient du mépris pour lui et pour ses idées. Lorsque vous annoncez Jésus-Christ et la vie éternelle, il se trouve toujours quelques philosophes, quelques intellectuels, quelques professeurs d'université pour vous mépriser. Et je pensais à cette parole du Seigneur Jésus. Il dit, « Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et c'est une parole qu'on peut vérifier encore aujourd'hui. Les enfants sont prompts à saisir les vérités de l'Évangile. Les sages, les prétendus philosophes, les intellectuels les méprisent. Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Le contexte immédiat de ce verset, Jean-Baptiste est emprisonné et il envoie ses disciples vers Jésus en lui disant, « Es-tu bien celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ?» Et Jésus dit à ses disciples, il les renvoie vers Jean-Baptiste, et il leur dit, « Mais dites-lui ce que vous voyez et ce que vous entendez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il dit, regardez simplement les faits. Regardez les faits, considérez les faits. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux intellectuels d'aujourd'hui. Considérez les faits. Considérez la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est une vérité. Il est apparu à 500 personne à la fois après sa résurrection. Il a dit qu'il allait mourir pour nos péchés. Le tombeau est vide à Jérusalem. Tous les intellectuels qui ont voulu combattre cette pensée, qui sont allés vérifier les faits ont été obligés de reconnaître que les faits étaient exacts et sont devenus chrétiens par là. Nombre d'archéologues qui voulaient démonter le christianisme sont allés sur place, ont vérifié les choses qui étaient écrites dans la parole de Dieu, et ils ont été convaincus et ils ont cru. Oui, nous avons en notre possession la possibilité de vérifier ces choses. Néanmoins, ces intellectuels, ces raisonneurs qui méprisent ces vérités, le conduisent à l'Aréopage. L'Aréopage, c'est une petite colline à l'ouest de l'Acropole, au centre d'Athènes. Elle est consacrée à Arès. Et en fait, c'est la colline d'Arès. Arès, Opage. Arès, c'est le dieu de la guerre, c'est le Mars chez les Romains. Et c'est le lieu où le tribunal suprême d'Athènes rendait ses arrêts. C'est à cet endroit-là que Socrate a été condamné et qu'il a dû boire la ciguë. Paul savait qu'il s'adressait à quelques-uns des hommes les plus instruits de la ville, dans la ville la plus cultivée qui existait alors. Et Paul s'est adressé là, non à un tribunal, mais à une assemblée officielle de philosophes. Je pensais aujourd'hui, si ça devait arriver, Paul irait à la Sorbonne, il irait à l'Académie française, et voilà le message qu'il leur délivrerait. Son message est incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que ces hommes sont prêts à l'écouter. Et la raison, elle nous est donnée au verset 21, il est dit « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. » J'aime ça. Pourquoi est-ce qu'ils écoutaient sans cesse et qu'ils racontaient des nouvelles? C'est parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Ils attendaient encore quelque chose de nouveau. Un dernier truc. Il fallait toujours quelque chose de nouveau. N'est-ce pas ainsi que vivent un grand nombre de nos concitoyens? Ils ne sont pas satisfaits. Alors il leur faut quelque chose d'encore nouveau. Un nouveau spectacle. De nouvelles sensations. Un nouveau remède. Il y a toutes sortes d'idées farfelues qui naissent en médecine parce qu'il faut un nouveau remède. Une nouvelle manière de s'alimenter. Une autre manière d'évacuer le stress. En regardant le journal ces jours-ci, j'ai vu qu'il y avait, pour évacuer le stress, une nouvelle forme de yoga. C'est le fly yoga. C'est le yoga dans un hamac. C'est-à-dire les gens se mettent dans un torchon qui est dans un hamac suspendu dans les airs, là. Et puis là, ils se déstressent totalement. C'est vraiment le bonheur absolu. Voilà. Il faut toujours quelque chose de neuf. Pour se déstresser, il faut faire de la gym. Mais maintenant, les salles de gym sont désertées. On fait de la gym, de l'aqua punch. C'est on sue, mais dans l'eau. Alors, voilà, c'est une nouvelle forme. Toujours quelque chose de neuf. Et que ce soit dans le sport, dans la philosophie, il nous faut toujours une nouvelle idée. Parce qu'on n'est pas satisfait. Et c'était leur cas ici. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient aujourd'hui, donc ils cherchaient constamment quelque chose de nouveau. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je suis chrétien, et ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant, je ne cherche plus. J'ai trouvé. Je n'attends pas quelque chose de nouveau. Mon âme est satisfaite pour toujours par l'Évangile. Dans son message, Paul est remarquable, il prend les gens où ils en sont et puis il leur annonce la vérité. Ici à Athènes, son auditoire est très cultivé, très idolâtre, parfaitement perdu dans ses péchés. Il croit que Dieu existe, mais qu'on ne peut pas le connaître. Et regardez ce qu'il dit, il saisit cette inscription à un Dieu inconnu et il leur dit « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Dans son message, il va donner trois points, grosso modo. On peut connaître Dieu, c'est-à-dire Dieu est connaissable, Dieu est esprit éternel et puis Dieu a parlé. Voyons cela rapidement. Lorsque l'on a Dieu est connaissable, tout d'abord, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Lorsqu'on a interrogé Albert Einstein au sujet de l'existence d'un créateur, il a répondu, bien sûr, il y a une puissance cosmique. Ne pas le croire, c'est stupide. Mais nous ne pourrons jamais le connaître. C'est triste. Einstein avait faux ce jour-là. Dieu est connaissable. Oh, bien entendu, nous ne pourrons jamais le comprendre pleinement, c'est-à-dire d'une manière exhaustive, parce qu'il est infini. Regardez par exemple le psaume 145, je lis au verset 3, psaume 145, verset 3. Excusez-moi, psaume 145, le verset 3. « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Psaume 147, le verset 5. « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Psaume 139, je lis au verset 6, il est dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » Et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Au verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Oui, en cela, Dieu est incompréhensible. Mais cela ne signifie pas que nous ne puissions rien connaître de lui. Nous ne connaîtrons jamais parfaitement sa sagesse infinie, ou son amour, ou sa puissance. Mais nous pouvons connaître un peu du caractère, un peu de la nature de notre Créateur. En Romains chapitre 1 et au verset 19, il dit, je lis Romains chapitre 1, verset 19, il dit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu » sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Oui, on peut connaître un peu de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de son caractère, de sa beauté, de sa splendeur dans la création, simplement en considérant les choses qu'il y a autour de nous. Il s'est fait connaître dans sa création, il se fait connaître aussi dans notre propre conscience. Paul s'applique alors à leur présenter dans les versets suivants eh bien, ce Dieu que l'on peut connaître. Et regardez ce qu'il dit au verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Oui, dans la description qu'il fait ici, en quelques versets, nous avons un condensé de théologie. On apprend que Dieu est le Créateur. Il a fait toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Il est le propriétaire aussi de tout ce qu'il a créé. Dans le psaume 24, il est dit... À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il dit ici, vous êtes sa création, le monde entier, l'univers a été créé, formé par la parole de Dieu. Le monde lui appartient et tout ce qui s'y trouve lui appartient. Toutes les personnes qui habitent cette terre lui appartiennent. Et puis il ajoute, Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Lorsque Salomon a bâti un temple, le plus beau temple qui ait été dédié au Seigneur, il dit, voici, le temple était construit, c'était magnifique, c'était de l'or tout à l'intérieur, C'est une des sept merveilles du monde. Ça a provoqué la convoitise de tous les royaumes d'alentour. Et puis il a dit, voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu est omniprésent. Il voit tout. Il connaît tout. Il n'a pas besoin de nous. Et pourtant, nous avons besoin de lui. Tu ne peux rien lui donner qui lui appartienne déjà. Par contre, il t'a donné tout ce que tu possèdes. Le souffle de ta vie est entre ses mains. Il peut mettre un terme à ta vie quand il veut. Et puis Dieu est souverain. Il gouverne tout. C'est lui qui détermine toute chose. Il décide de la place de chacun dans l'histoire et sur la carte. Il contrôle souverainement la montée et la chute des nations et des empires. Il contrôle la localisation des nations ainsi que l'étendue de leurs conquêtes. Il dit, vous êtes tous sortis d'un seul sang. Alors ça, pour les Athéniens, c'est quelque chose. Il dit, vous êtes tous pareils. Voilà, quand même. Pareil que lui, là, quand même. Non, je suis mieux. Et les Athéniens avaient ce discours-là. Ils pensaient être la science de tout ce monde. Mépriser les autres peuples. Et puis, il dit encore, versets 27 et 28, « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » C'est intéressant ici. Cette caractéristique du Dieu, il est infiniment grand, infiniment puissant, capable de tenir le monde entier dans ses mains. Et pourtant, on peut le connaître. Pourtant, on peut avoir communion avec lui. Pourtant, on peut lui parler comme au plus intime de nos amis. Et c'est cela qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'à la fois, il est tellement grand, et puis il est tellement proche de nous. Nous pouvons le connaître. Au début de ma conversion, en lisant les psaumes, j'ai été frappé par le psaume 145, le verset 18, il dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » J'aime cette pensée-là. Le but des stoïciens, c'était d'être zen. Pas d'émotion. Le but des épicuriens, c'était la jouissance de la vie. Le but que Dieu donne ici à l'homme, c'est qu'il cherche Dieu et qu'il le rencontre. Ça, c'est le but pour notre vie. Jésus a dit à son Père, dans sa prière, en Jean chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le sens de notre vie, c'est de connaître Dieu, de le rencontrer. Pour le rencontrer, il faut simplement s'approcher de lui avec sincérité de cœur. C'est-à-dire, tel que l'on est, avec nos fautes, avec nos péchés, se tourner vers lui et dire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es mon Créateur. Je reconnais que tu as tout pouvoir sur ma vie. Tu me donnes aujourd'hui une bonne santé, mais tu peux me retirer ces choses. Tu me donnes une famille, mais tu peux me la prendre. Tu as tout pouvoir. » Et je veux te rencontrer. Je veux que tu donnes le sens à ma vie. Et puis enfin, il termine son discours avec ce troisième point, Dieu a parlé. Et il dit au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voici ce qu'il dit. Dieu a parlé et voici ce qu'il dit. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Il y a un jugement. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Est-ce que votre conscience ne dit pas, ne vous dit pas, ne vous crie pas, tu vas rendre des comptes? Est-ce que votre conscience ne vous crie pas ces choses? N'y a-t-il pas au fond de votre cœur une soif de justice qui réclame le jugement de Dieu? Et qui à la fois vous fait redouter ce propre jugement pour vous. Les hommes sont tous égaux aux yeux de Dieu. Ils sont tous sortis d'un seul sang, tous issus d'un seul homme, Adam, et tous coupables aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il dit « Maintenant, maintenant, peu importe, faisons table rase de tout le passé ». Mais maintenant que vous savez ces choses, maintenant que vous avez entendu parler du Dieu vivant, du Dieu vrai, du Dieu miséricordieux, du Dieu qui s'est offert en sacrifice pour vous, maintenant, repentez-vous. Maintenant, détournez-vous de vos péchés. Maintenant, saisissez son salut. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour pour juger le monde. Il avait fixé un jour pour juger l'humanité du temps de Noé. L'humanité d'alors s'était complètement détournée de Dieu. Il a fabriqué une arche pour sauver sa famille. Et Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche. Et puis Dieu a lui-même fermé la porte de l'arche. Et le jugement est venu sur toute l'humanité. Et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche, périr. Il a fixé un jour pour juger Sodome et Gomorre à cause de leurs péchés. Il a envoyé ses anges pour sauver Lot et sa famille. Mais ses gendres et ses filles pensèrent qu'ils plaisantaient. Ils n'ont pas quitté la ville et ils ont péri avec toute la population sous le feu du jugement. Il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, savoir Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il est celui qui peut juger parfaitement parce qu'il est celui qui a pris sur lui votre châtiment. Christ est mort pour vous, pour vos péchés. C'est la vérité qui a bouleversé ma vie. J'avais entendu parler de l'histoire, mais je pensais que c'était une erreur judiciaire qu'on l'avait tué. Pourtant, il était tellement gentil, tellement bien. Mais c'est pas ça, la vérité. L'évangile, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour qu'il meure pour nous. C'était le plan de Dieu, la croix. C'était parce que c'était le seul moyen de nous racheter, de nous sauver de nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nous. Et c'est lui qui sera notre juge. Lui qui veut faire miséricorde à tous. Il jugera sans miséricorde ceux qui ont méprisé sa croix. Et c'est ce qui s'est passé ici dans notre passage quand il a rapporté les paroles de Dieu et le jugement et la résurrection auxquelles nous sommes tous confrontés un jour. Résurrection pour la vie ou pour la mort, pour le ciel ou pour l'enfer. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aréopagite, certainement un des membres du conseil de l'aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. À l'annonce de l'évangile, il y a toujours ces trois remarques.
Et il y a ceux qui se moquent.
Il y a ceux qui sont touchés, mais qui, au fond, diffèrent leur décision. Et puis, enfin, il y a ceux qui croient et qui sont sauvés. Ma question pour vous ce matin, c'est quelle sera votre réponse ce matin? Il dit qu'il annonce maintenant à tous les hommes de se repentir et de croire au Seigneur Jésus. Quelle sera votre réponse? Je ne peux pas répondre pour vous, vous ne pouvez pas répondre pour moi. Chacun répond pour lui-même. Prions Dieu.